debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Nos entraves, debout, debout. Levons nos femmes esclaves et jouissons sans entraves, debout, debout.
Bonjour et bienvenue à l'émission du collectif Debout, collectif féministe nancéen et mixte. Donc moi c'est Sarah.
Et Maya.
Christiane de la crise.
Marion de la crise.
Et oui, aujourd'hui, on fait une émission avec le collectif La Crise pour aborder les situations de précarité dans lesquelles peuvent être les femmes. Donc, on a donc Marion et Christiane qui sont là pour La Crise.
La Crise, ça fait un moment qu'on travaille avec La Crise et qu'on se connaît bien. Donc, La Crise, c'est le collectif des révoltés invisibles, oui. Solidaires et enragés.
Enragés, voilà.
Et donc, voilà, collectif de lutte contre le chômage et la précarité. Christiane, tu voulais...
Oui, il y a des actions en cours, notamment les intermittents du spectacle moment. Marion, vas-y.
Oui, contre la réforme de l'UNEDIC qui prévoit de baisser les indemnités chômage aux intermittents ainsi qu'aux intérimaires. Et on organise des actions actuellement pour contrer cette réforme qui a été adoptée récemment.
Il y a eu un pique-nique devant le MEDEF, notamment.
Voilà, notamment, oui.
Et donc, le collectif a son siège rue Mont-Désert, 69 rue Mont-Désert, au CCAN. Il y a des assemblées générales chaque semaine. Et une émission sur RCN, le quatrième vendredi du mois.
À 15h.
À 15h.
Oui, sur le même créneau que notre émission.
Qui s'appelle Parole de crise.
Et les assemblées générales, c'est les mardis soirs, c'est ça ?
Mardi soir et jeudi après-midi, il y a la permanence.
Mardi soir, toutes les deux semaines à partir du premier du mois. Et la permanence ouverte au public, l'âgée aussi d'ailleurs. Enfin, la permanence ouverte au public, c'est le jeudi après-midi de 15h à 18h.
Voilà. Toujours au centre culturel autogéré.
Toujours au centre, voilà.
69 rue de Mont-Désert.
Oui.
Voilà, c'est important de le préciser. Il y a aussi, il me semble, des zones de gratuité qui sont organisées par La Crise.
Exactement. Tous les derniers dimanches du mois, il y a une zone de gratuité, d'échange, de convivialité ouverte à tous. Voilà.
Toujours au même endroit.
Au 69 rue Mont-Désert, au CCAN.
Donc, on voulait aborder les situations de précarité dans lesquelles peuvent se trouver les femmes. Il y a plusieurs choses à aborder. On voulait aussi élargir à des situations éventuellement de discrimination dont peuvent être victimes les femmes. Donc, peut-être qu'on débute un petit peu sur quelques éléments sur les situations de précarité. On peut parler de précarité économique quand effectivement les personnes ont des revenus assez faibles. On peut parler aussi de précarité sociale quand les personnes se retrouvent exclues des groupes sociaux. Donc il y a déjà différentes formes de précarité. Là, on était plus sur l'idée de parler un petit peu des situations de précarité économique.
De la précarité économique... De toutes les femmes qui actuellement vivent sous le seuil de pauvreté.
Parce que dans les chiffres, on retrouve plus de femmes dans ces situations-là que d'hommes. Hein. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais quand on regarde les statistiques, c'est clairement ce qui ressort.
Moi, j'ai quelques chiffres. Donc, 80% des travailleurs pauvres et 85% des travailleurs à temps partiel sont des femmes. Et les femmes migrantes sont particulièrement précarisées. Les femmes... 57% des chômeurs non indemnisés sont des femmes. Et puis, comme d'habitude, les hommes ont des salaires qui sont 37% supérieurs à ceux des femmes. À travail égal, la différence est de 10%. Donc, c'est une pure discrimination. Et il faut lier ça, bien sûr, avec la situation des femmes. Quand on est une femme seule qui élève des enfants et qu'on se retrouve à être sous-employée, sous-payée, on est d'autant plus dans une situation de précarité.
Clairement. Donc, là, c'était pour un petit peu introduire le sujet. On voulait aussi étendre aux situations qui peuvent être difficiles pour certaines personnes du fait de leur couleur, par exemple. Et on avait une chanson à passer à ce propos-là. Maya, si tu peux...
C'est la chanson Freedom, donc Theme from Panther. Donc, c'est un collectif de rappeuses afro-américaines donc, qui a enregistré cet album en 1995 avec Queen Latifah, Yo-Yo, TLC, MC Light, Nefertiti, Salt and Pepper, etc. Donc, c'est une ode à la liberté, freedom, liberté, et à l'émancipation. C'est pour mettre en avant justement les féministes qui ont joué un rôle majeur dans la résistance noire et aussi le féminisme actuel du présent. Pour l'émancipation des jeunes filles, des femmes, notamment des femmes noires, contre le racisme, contre le machisme, pour la paix, pour l'autodétermination, le respect. Tout ça inspiré notamment par Rosa Parks. Donc Rosa Parks qui s'est levée, qui s'est assise pour se lever, c'est-à-dire que sa résistance a été justement de s'asseoir dans un bus qui était réservé aux Blancs à l'époque.
À l'époque de la ségrégation raciale aux États-Unis, ouais.
Voilà. Ouais, ouais. Et voilà que cette histoire, elle est importante et donc qu'on en parle. C'est ce que dit le refrain, libère ton âme, libère ton esprit, ne laisse aucun mec venir prendre le contrôle parce que tu es jeune et que tu as ton rôle à jouer et que ton histoire officielle n'a jamais été dite.
Voilà, freedom donc.
And none of that okay sugar, as long as you play the background, getting my beer and rubbing my feet, but either, you dig?
After story has never been told. Ladies, you got to demand what you want, and what you want is respect, right? Yo, just sit up on the track, just sit up and deal with it, right? Freedom every time for the sisters. Check this. Watch this.
Here we go now. Listen, if I'm boom boom rule, I be the ruler like Slick Rick. Hit with this quick-witted Adidas wearing shit. Papa got a brand new bag. Mama got a brand new Jagger. Go tag. I ain't no old hag. I represent not only in the kitchen, in the bedroom, but also in the boardroom. So give me more room. Deny my opportunity. You in jeopardy. Yo, yo, set me free. Don't hinder me. Let me be.
I'm fighting for freedom. I got the heat in case you need them. A straight soldier. Ain't nobody told ya. Hold up on them lies. I know your games and your plans. Do whatever you can to oppress the man. But when it's time to drop the bar, bring the funk in the soul. You say you never met a sister so strong. You're wrong now. How can we be free? It takes you and it takes me to blend together in harmony and peace and love and all of the above. Sisters coming together representing one love. No disrespect, but we gotta get it together. No matter what's the weather, sisters gotta stick together. And sisters be strong. Don't let them steer you wrong. Hold on, 'cause sisters got it going on. Yeah, free your mind and your soul. Guys, on tech control. Cause you're young and I did play the role. And I'm the story as never before.
These are the things that you can do and the things you ain't supposed to. So am I brother when I think I'm getting closer? That's when I tend to think of Rosa. I once it took a seat to make a stand, but now I'm standing. We've gotten more demands and they never thought and planning that a wish for us to sit would be a dose. This roller coaster. Whether tradition or religion, why you question my decision? Why you spend up all your time trying to get into my mind? Why everybody and they mama got to add to all my drama? Mad drama. Hell, if I'ma keep my dominating feministic hell, creating crazy, sexy, cool black in the palms of your player hater stands. My only chance of being free is to fly within me, and it's illegal to kill a meagle. A bird is never more important than my people. I guess we didn't need him, so I took away his freedom.
Cause free your mind and your soul. Come in, no guys, come take control. Cause you're young and you play the role. And I'm that story has never been told.
My spiritual awareness leads me to believe that your doubt and the sisters could come with the peace. We've been together since Jack created water. The African water celebration is in order. Pop the cork and give champagne to the stork that brought the light to my mama in New York. African, I come again and again. You kick me down, I get back up, I'm coming back in multiples of ten.
You know where I come from. Sprung from the belly of the beast, used to speak African tongue. So I showed her, next one bolder. Sprung the devil over my shoulder. I'm getting over, cause I'm bolder than the next. I'm in nothing, cause I speak the real truth from the text. Who's next to flex with this S-I-S-T-E-R? The sun, the moon, the crescent, the star. Wanna see how open you are.
Bring your mind on your soul. Ain't no dice from take control. Because you're young and I look like a pro. All right, I know you are gonna let them know.
Come and take a walk with me. Closer walk with thee. See what only I can see. Nobody knows the trouble I've seen. So it's back to the womb of everlasting life and truth. Let the heaven of a system embrace you. Embrace the mother. Coming to the light, let it shine. Blackness is fire. Blackness of your skin, the blackness of your mind.
I am, and that's who I be. And I don't give a damn if your eyes can't see. If you can't see what I can see, that you're wrong, baby. I'm a woman who's black, so back up, cause it's on. I'ma tell you strong what's wrong with the world that we're living on. It ain't who you know, it ain't what you drive. It's about how you feel about yourself on the inside. Self-esteem is low, and they call you a hoe, then you think you's a hoe, but that ain't what the Lord God made you to be. I need you to see, you're black and you're free.
Bring your mind on your soul, I mean no dice come take control, because you're young and I you play the role, and out that story has never been told. Bring your mind on your soul, I mean no dice come take control, because you're young and I you play the role.
Voilà, c'était Freedom, donc la version rap. Parlons de l'histoire qu'on ne nous apprend pas et ce que nous, les femmes, nous demandons partout, tout le temps, c'est le respect pour nos sœurs et la liberté. Et voilà, nous avons besoin de voir que vous êtes noires et que vous êtes libres et ne laissez personne atteindre votre estime de vous-même. Et dans toutes les situations qu'on peut rencontrer en tant que femme, en tant qu'opprimée.
Voilà, une chanson qui incite à agir, en tout cas. Donc, c'est vrai qu'on ne voulait pas parler uniquement que de la précarité économique. On voulait aussi élargir, donc, par exemple, sur la discrimination liée éventuellement à la couleur de peau ou la discrimination liée au fait que la personne vienne d'un autre pays. Il y a beaucoup de choses dont on aurait pu parler, mais ce n'était pas possible de parler de tout, comme d'habitude. Mais on a quand même interviewé une femme qui, elle, est plus dans une situation de handicap physique, et c'est aussi des situations où les personnes vivent des discriminations et peuvent même vivre des situations de précarité économique liées à ça. Donc c'est un interview avec Agnès qui se présentera dans l'interview. Bonjour Agnès, merci d'avoir bien voulu répondre aux questions du collectif Debout. Donc je te laisse te présenter d'abord.
Eh bien moi, donc, je m'appelle Agnès, je suis mariée depuis 20 ans. Un jeune homme qui vient de Saint-Étienne, qui lui est valide. Donc moi, je suis en fauteuil roulant électrique. C'est pour informer les auditeurs, pour qu'ils aient une idée un petit peu de comment je suis. Donc moi, je me promène dans la vie de tous les jours en fauteuil roulant électrique. Mais ça ne m'empêche pas du tout de vivre comme tout le monde. Donc je travaille à la ville de Nancy, à la mission handicap du CCAS de Nancy.
Alors, on voulait un petit peu aller sur le champ de se poser la question, quand on est femme et aussi éventuellement au sein d'un groupe victime de discrimination dans la vie quotidienne, se dit, pour avoir le témoignage d'une personne, d'une femme qui serait porteuse d'un handicap, savoir toi, si... tu vis des discriminations particulières, si tu as l'impression aussi de vivre des discriminations liées au fait d'être une femme ou liées au fait d'être en fauteuil électrique, comme tu le disais. Donc, dire un peu, toi, ton vécu par rapport à ça.
D'accord. Mais écoute, en fait, moi, dans la vie de tous les jours, ce serait, si je suis victime de discrimination, c'est plutôt par rapport au fait que je suis handicapée. Parce que c'est la première chose que l'on voit justement à cause de mon fauteuil électrique. bon, je ne passe pas inaperçu. Donc effectivement, je pose plutôt des soucis, si on veut, par rapport à mon handicap, plutôt que par le fait que je suis une femme. À la limite, il faudrait que je teste une fois si je mets un super décolleté pour voir si ça change les regards. Mais je pense que les gens, ils ont plutôt une première appréhension, peur que je leur roule sur les pieds ou je ne sais pas. Non, c'est une question que je ne me suis jamais posée, hein, d'être discriminée par rapport à du fait que je sois une femme.
Ce que tu dis, ben, ça permet d'apporter un peu d'eau au moulin pour se poser la question des différentes formes de discrimination. Mm-hmm. Ce qui était intéressant aussi d'aborder, ben, c'est les situations des femmes qui vont être porteuses de handicap et les difficultés peut-être plus économiques. Ce que je disais tout à l'heure quand on discutait sur femmes, des personnes porteuses de handicap qui peuvent pas travailler, qui ont du coup une allocation spécifique et qui peuvent se retrouver en situation de dépendance financière parce que la CAF verse cette allocation en fonction des revenus du foyer, donc si la personne vit avec quelqu'un d'autre.
Tout à fait. Mais effectivement, pour les personnes, donc les couples où il y en a un seul des deux qui travaille, effectivement, suivant le montant de son salaire, eh bien, on va en déduire autant de l'âge de l'autre. Et effectivement, l'autre va devenir déjà dépendant de l'autre automatiquement quand on vit en couple. La personne handicapée, elle est toujours plus ou moins dépendante de la personne valide, parce qu'automatiquement, la personne valide, elle va, parce qu'elle aime l'autre, donc elle va vouloir l'aider au maximum. Et on se retrouve déjà dépendant de l'autre à cause de ça. Mais c'est vrai que c'est accentué par le fait que si elle a moins d'allocations à cause du revenu de l'autre, donc automatiquement, les besoins qu'elle a, elle va devoir demander de l'aide à son compagnon ou à son mari, qui va devoir combler avec sa paye, alors que ce n'est pas normal, quoi. Donc c'est toute une mentalité qui doit évoluer. Bon, déjà, la vie en couple, c'est pas évident, hein, pour tout le monde. Mais c'est vrai que quand on est handicapé, ça accentue la dépendance. Et la vie de couple en prend un coup quand même, quoi. Parce que c'est pas évident de dire à l'autre, bon, écoute, non, je vais prendre des aides parce que t'es pas mon aide-soignant. Donc des fois, l'autre le prend un petit peu mal aussi, en disant, mais tu me rejettes, tu veux plus de moi. Et je dis, mais non, mais c'est pour que tu aies ta vie aussi, quoi. C'est pas normal, quoi. Mais après, c'est pas évident non plus quand on a beaucoup d'aide à la maison, parce que on vit à trois, quoi. Le mari, la femme, et puis l'aide-soignant. Donc, c'est une vie un peu différente, quoi. Mais c'est vrai que si déjà le côté financier, ça pouvait être revu par l'État, ce serait quand même bien, quoi.
Donc, ce que me disait aussi Agnès, en dehors de l'enregistrement, du coup, c'est qu'elle a fait quelques recherches internet parce qu'elle s'était jamais trop intéressée au lien entre féminisme et femmes handicapées. Et elle avait vu, donc, entre autres, un document où il disait que souvent les femmes porteuses de handicap étaient plus victimes encore de violences que les femmes qui n'auraient pas de handicap. Après, j'ai pas fait de recherche au niveau statistique, mais voilà ce qui était ressorti un petit peu de ces premières recherche, le fait d'avoir un handicap qui vient s'ajouter à une situation de faiblesse, en fait. Donc, on voulait aborder beaucoup de choses. On remercie Agnès de nous avoir accordé un peu de son temps pour cette petite interview. Et donc, on va enchaîner un peu. Donc, Agnès, elle a le travail. On va enchaîner justement sur le travail, les secteurs professionnels et ce qu'on peut dire un peu du statut des femmes dans le monde du travail.
Alors, les femmes sont concentrées à 60% sur seulement 6 catégories de métiers, donc sur les 31 catégories de métiers répertoriées. Et la plupart de ces métiers sont peu valorisés, peu rémunérés. Donc, c'est souvent ce qui est service aide à la personne. Donc, aide à domicile, infirmière, aide-soignante, sage-femme. Donc, qui ont des statuts qui sont sous-considérés. Donc, parce que ce sont... Alors, il n'y a pas vraiment de métier d'homme et de métier de femme, ça n'existe pas. Mais il y a des métiers où il y a plus d'hommes et des métiers où il y a plus de femmes. Et là, on a déjà une inégalité. L'inégalité supplémentaire, c'est la déconsidération qu'il y a par rapport aux métiers qui sont majoritairement occupés par des femmes.
Voilà, donc ça, c'est vraiment au niveau professionnel, on retrouve des situations qui peuvent être difficiles. Donc on voit déjà que c'est souvent des métiers, on retrouve beaucoup de femmes sur des métiers qui vont être plutôt déconsidérés dans la société. Mais on se trouve aussi, justement, il y a des secteurs où on retrouve beaucoup de femmes. Donc on va aborder un peu le secteur de la recherche que connaît bien Christiane et qui va nous dire un petit peu les situations de précarité dans lesquelles peuvent se retrouver les femmes qui travaillent dans ce domaine-là.
Oui, moi je voulais intervenir sur la précarité à l'université et dans la recherche publique. Donc on pourrait penser que ouais, ce sont des aristocrates, etc. Mais la situation a énormément changé du fait de la loi sur l'autonomie des universités, la flexibilité de la recherche avec des contrats temporaires et donc des personnes sur CDD, sur vacations et sur toutes sortes de choses extrêmement précaires. Et notamment les sciences humaines sont très touchées par la précarité. Et c'est là où il y a beaucoup de femmes. Et c'est donc déjà au début une ségrégation, puisqu'on retrouve énormément de personnel féminin dans les sciences humaines. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Et dans l'administration également, avec beaucoup de souffrances morales, en fait. Puisque quand les postes sont sur du court terme, les personnes sont soumises à des conditions de travail assez difficiles. Certaines personnes n'ont pas de bureau, par exemple, ou les CDD sont interrompus sur des temps assez longs. Et donc, ça revient à dire qu'il y a une espèce de soumission par rapport au directeur ou au chef de service. Il y a des questions aussi de harcèlement, il y a toutes sortes de choses qui sont liées en fait à la précarisation de la recherche et de l'université.
Donc des statuts de petits CDD qui font que les personnes...
Alors voilà, moi j'ai lu, je ne connais pas cette personne en particulier, mais j'ai vu qu'une chercheuse, alors cette fois-ci une chercheuse à l'INSERM, donc qui est recherche médicale, avait enchaîné 12 CDD et qu'ensuite, à la suite de ça, elle avait été licenciée. Donc elle avait un recours auprès du tribunal administratif. Les institutions avaient enchaîné les CDD tout en changeant d'institution à chaque signature de contrat. Donc après, c'est extrêmement difficile de dire, bon voilà, je voudrais être titularisée, puisqu'on ne retrouve plus l'employeur principal en fait.
Et c'est vrai que c'est des situations qu'on retrouve beaucoup dans le domaine public en général, parce que c'est pas le même droit du travail qui va s'appliquer, donc il va y avoir plein de petits CDD comme ça, ça peut être les communes, ça peut être les collectivités territoriales, sur les postes administratifs, on pense entre autres des postes qui sont très déconsidérés, les postes de secrétaire ou d'agent administratif qui sont à majoritairement féminins, et des postes qui sont vraiment très déconsidérés, alors que c'est des postes très complexes. Et là, on retrouve une grande précarité de statut avec beaucoup de contrats aidés, des choses comme ça aussi. Ouais.
Alors, c'est même vrai des étudiants avec leur thèse ou après la thèse. Quoi. Les situations sont extrêmement précaires. Alors, on peut se dire, oui, mais il y a la loi qui a été votée il y a quelques années, qui prévoit une titularisation justement de ces personnels. Mais les conditions sont tellement restrictives que peu de personnes sont touchées en fait par cette loi. Il y a des concours réservés, mais il y a quelques élus quoi qui seront éligibles pour ces concours réservés.
Oui, souvent ils jouent sur l'intitulé du poste, sur le nom de l'employeur pour réussir justement à contourner cette loi. Parce que l'égalité en droit, elle existe. C'est son application qui pose problème.
Alors surtout, ils jouent sur, il faut avoir bossé pendant 4 années, enfin je dis peut-être un peu n'importe quoi, mais en gros c'est ça, 4 années d'affilée sans interruption. Donc après, les directeurs ou les chefs de service jouent là-dessus. C'est-à-dire que les contrats s'interrompent, reprennent Moi, j'ai croisé une personne qui attendait un enfant. Voilà, le contrat s'arrête, elle accouche, elle revient. Enfin, c'est vraiment des situations. Et c'est préjudiciable aux personnes elles-mêmes, parce que moralement et physiquement, c'est extrêmement difficile. Mais c'est également préjudiciable, globalement, à la recherche. Parce que travailler comme ça, de manière... aussi fragmenté, atomisé, je veux dire, c'est pratiquement mettre les projets en faillite.
Et du coup, tu parlais d'une femme qui attend un enfant, ça me fait penser à tout ce qui est discrimination à l'embauche. C'est un bon exemple, hein. Par exemple, le fait que une femme puisse avoir des enfants, c'est rien que ça, et c'est utilisé, hein, comme discrimination.
On pose la question justement aux femmes, est-ce que vous avez des enfants? On ne pose pas cette question aux hommes, les hommes aussi ont des enfants.
En parlant de femmes avec des enfants, moi ou pas, j'aurais voulu revenir sur quelques chiffres du RSA. Sachant que sur 190 000 bénéficiaires du RSA Socle, la quasi-totalité sont des femmes. Même si certaines femmes sans enfants sont épargnées, la quasi-totalité, elles aussi, sont des femmes avec des familles à charge. Et dans de nombreux cas, pour elles, c'est un manque d'accès à une garde, à des emplois. On leur dit non parce qu'elles ont des enfants. C'est un cercle vicieux. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire et malheureusement...
Et à la crise, justement, vous rencontrez des femmes dans ces situations-là.
On essaye de les aider, de les accompagner dans leur démarche, justement parce qu'elles se retrouvent isolées, parce qu'elles n'ont plus trop de contact avec les autres. Et nous, on se charge de les aider tout simplement et de leur retrouver du travail, une place en crèche pour les enfants. Et puis voilà.
Oui, j'avais échangé avec une autre personne de la crise qui disait qu'il y a des communes, par exemple, où il n'est pas possible d'inscrire ses enfants en crèche. C'est une femme seule qui est au chômage. Elle ne pourra pas inscrire son enfant, pas en crèche, pardon, à la cantine parce qu'elle ne travaille pas. Donc ça veut dire que par rapport à ses démarches, justement, pour réussir à s'en sortir, elle est déjà bloquée. C'est aussi le cas en crèche. Moi, j'ai eu l'expérience où on m'a dit, mais si la personne est au chômage, on ne prend pas votre enfant en crèche. Donc voilà, c'est déjà clair. Là, on ne vous permet pas d'essayer de vous en sortir. On se retrouve vraiment face à un mur, quoi.
Voilà, c'est une situation qui est totalement aberrante. Surtout que le gouvernement avait prévu, d'ici la fin de son quinquennat, la création de 270 000 solutions d'accueil pour enfants et femmes, et dont 100 000 crèches. Et on n'en voit toujours pas.
Les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
Voilà.
C'est une vraie problématique, hein, ça, par rapport à l'accès à l'emploi pour les femmes. Le fait que quand on a un enfant en bas âge, il faut trouver un moyen de garde. Les crèches, il n'y en a pas assez. Après, ça coûte cher, les moyens de garde. Donc, il n'y a pas forcément de politique ambitieuse ou alors des effets d'annonce, mais sans résultat.
Et rappelons que les employeurs jugent aussi, n'emploient pas souvent de femmes. D'ailleurs, à cause de ça, hein, c'est aussi la raison pourquoi ils ne trouvent pas de travail.
Mais c'est donc parce qu'on considère aussi que c'est aux femmes de s'occuper des enfants. Voilà, ce n'est absolument pas le cas. Il faut aussi sortir de ça et que la parentalité, ça concerne les deux parents, voire plus concerne toute la société, tout ce qui est d'accueillir les enfants en crèche, etc.
Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus pour dire qu'à chaque fois qu'un couple se sépare, 9 fois sur 10, la femme récupère l'enfant. Ce qui amène forcément encore à une situation vicieuse qui est bénéficiaire que pour l'homme, le père.
Oui, dans les très grands groupes, il y a des crèches d'entreprise, mais encore faut-il accéder au travail et à ces grands groupes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même toute une couche de la population, et notamment les femmes qui sont laissées pour compte, à qui on demande beaucoup, mais à qui on offre peu.
Il y a difficulté d'accéder à l'emploi et justement une fois qu'on a un emploi qui peut être dans des conditions vraiment déplorables, on va avoir une forte pression pour garder ce travail qui n'est pas du tout valorisant, qui n'est pas du tout rémunéré à sa juste valeur, mais justement avec cette pression économique qui va permettre de garder les femmes même lorsqu'elles ont un emploi, dans des emplois qui sont déconsidérés.
et qui ne leur plaisent pas forcément, on va dire.
Alors, pour rebondir justement sur les situations des familles monoparentales qui sont à l'heure actuelle essentiellement des femmes seules avec enfants, c'est encore la réalité aujourd'hui, on va vous passer une chanson qui s'appelle « Une femme seule ». C'est une chanson du groupe IAM.
Je me rappelle, il y a maintenant beaucoup d'années, dans les recoins de ma mémoire je ne puis oublier. Il y a des choses indélébiles qui mutilent, difficiles, épousent ma peau comme un textile. Puis lorsque des ombres qui se faufilent, ne laissant aucune chance à cette créature de Dieu qui fut tentée par un reptile. Souffrir en silence, elle disait ainsi soit-il. Elle était née dans un quartier où vivaient les immigrés. Famille nombreuse, difficile d'étudier. Plus l'école, la rue tenait le monopole des vols. Je te prie de croire que sa vie n'était pas drôle. Ainsi, peu de temps après, à 17 ans, elle a décidé de se marier. Je demande le respect et pour ceux qui le veulent, écoutez donc le récit de la vie du une femme seule, seule, alors qu'elle voudrait aimer. 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 Elle fut rapidement enceinte et eut un garçon. Parlant que d'argent, elle a perdu le second. Elle a un piton fatal, incontournable, le destin se déchaîne. Elle accoucha du troisième. Il n'avait pas beaucoup d'argent, il était souvent absent. Elle nourrissait sa famille avec 8 francs. Pourtant, on ne peut pas perdre son temps, comblait son manque d'enseignement. Elle étudiait pendant qu'elle s'occupait de la maison, de frotter, de laver. Ses fils qui ne comprenaient pas la regarder se souviennent désormais de l'avoir toujours vu trimer. Elle aspirait au bonheur, malgré sa main sur son front empli de sueur. Car elle rêvait un jour de partir, de quitter ce trop-plein de déceptions, de mauvais souvenirs. Mais 5 ans auparavant, cette décision fut rebelle. Elle a compris qu'elle risquait de devenir une femme seule.
Seule.
Cette soirée, elle attendait son mari des heures entières à la fenêtre en vain. Ainsi, cette situation demeura quelques années. Un jour, il va décider à la quitter. Bien comme un accord de divorce fut prononcé. Si longtemps après, putain, ce qu'elle devait aimer. Si douce, si patiente et encore arrivée à trouver un terrain d'entente. Elle était digne, fière, responsable comme une mère. Ignorant la solitude qui l'a pris dans ses serres. Le jour la tête haute, impassible, elle restait. La nuit dans sa chambre, elle se cachait pour pleurer. Elle travaillait, faisait de job en même temps, pour pouvoir payer des vêtements décents à ses enfants. Les élever dans le droit chemin, rester calme et sain, respecter son prochain. Le matin se réveiller sur une musique triste, que de lassitude et que de sacrifice. C'est l'histoire noire qu'il faut croire pour voir le courage et la sagesse rare d'une femme seule. Ses yeux verts résolus à accepter la fatalité qui l'écrasait sous le poids de son importance. Elle disait seulement ne pas avoir eu de chance, mais savait au fond d'elle qu'on ne vient qu'une fois sur terre. Et la malchance est une très mauvaise excuse. L'envers amer qu'elle vivait comparé à sa bonté n'était pas mérité, pour vous dire la vérité. Si bien qu'un jour elle a décidé de s'en aller loin de Marseille pour pouvoir recommencer, laissant derrière elle ce qu'elle aimait le plus, ses deux fils. Et beaucoup de soucis l'attendaient. Malgré ce désormais, elle est heureuse. Elle a beaucoup d'amis et un mari. Sérieuse, cependant lucide, en reconnaissant que sa vie n'a vraiment commencé qu'à 35 ans. Cela vous semble bête, mais songez-y. Perdez votre jeunesse, où est le sens de la vie? Si je vous parle de cette manière sincère, ouverte, c'est que cette femme seule était ma mère.
Donc sur la précarité économique, on a également fait un petit interview donc de Christiane Marty. Donc c'est un interview au sujet des pensions de retraite des femmes.
Bonjour Christiane Marty. Donc on t'a proposé cette petite intervention au sujet des retraites des femmes et je vais te laisser d'abord te présenter.
Alors bon, moi je suis membre du conseil scientifique d'ATAC et puis je suis aussi à la Fondation Copernic.
Donc la première question un peu par rapport aux retraites des femmes, c'est quel type d'inégalité il y a entre les retraites des femmes et des hommes actuellement ?
Alors les femmes elles ont des retraites qui sont très inférieures à celles des hommes et puis on constate que la retraite en réalité ça amplifie les inégalités professionnelles qu'on constate dans le marché du travail. Si on regarde le salaire moyen des femmes, il représente 75% de celui des hommes, mais quand on passe à la retraite, leur pension moyenne ne représente plus que 58% de celui des hommes. Et ça s'explique parce que en réalité, avec en plus des salaires plus faibles, les femmes elles ont aussi, d'abord elles travaillent un peu à temps partiel, et elles ont aussi des carrières plus courtes que les hommes. Et à la fois le salaire et la durée de carrière, ce sont les deux composantes principales qui rentrent en compte dans le calcul de la pension. C'est ça qui explique que les retraites des femmes sont bien plus faibles. Et ça vient, si on regarde dans l'histoire, ça vient du fait que la retraite a été conçue il y a plus de 70 ans maintenant. C'était le modèle de l'époque, c'était le modèle où l'homme travaillait, c'était le soutien de famille, travaillait à temps plein, sans interruption d'ailleurs, et il avait des droits directs à la sécurité sociale ou à la retraite, et sa femme, c'était en général, elle était au foyer, et elle avait des droits dérivés. Et le modèle de retraite, il s'est construit sur cette norme de l'emploi masculin, une carrière complète. Et ça désavantage les carrières courtes. Et le calcul de la retraite, il fait qu'il aboutit à un peu une discrimination par rapport au modèle de carrière des femmes qui ont donc des carrières plus courtes.
Ouais, donc c'est déjà un modèle qui a pas du tout été remis en cause en 70 ans et au contraire, il y a eu des évolutions et pas mal de réformes toutes ces dernières années. Et est-ce qu'on peut dire que c'est toutes ces réformes qui ont été faites par rapport au financement des retraites ont eu un impact justement sur les retraites des femmes?
Ah oui, les réformes. Alors c'est pas tout à fait juste de dire qu'il n'y a pas eu de changement depuis 70 ans, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, on a constaté ces inégalités, que ça ne convenait pas au modèle des femmes, et il y a eu quelques petits dispositifs qui s'appellent des dispositifs familiaux, qui ont été faits pour compenser la pénalisation qu'on a constatée sur les retraites des femmes, parce qu'elles s'arrêtaient pour éduquer des enfants. Donc on a dans le système de retraite ont été intégrés des dispositifs, on appelle ça les majorations de durée pour les enfants, et donc qui ont compensé, qui sont utiles, hein, parce qu'ils compensent quand même un petit peu les écarts de pension entre les hommes et les femmes. Mais là-dessus, c'est vrai que depuis 1993 au moins, il y a eu différentes réformes qui se sont succédées, de la droite ou de la gauche, mais qui vont toutes dans le même sens. On augmente la durée de cotisation qui est exigée pour avoir une pension à taux plein. Et ça pénalise tout le monde, c'est un peu le but, hein. On baisse le niveau de pension, comme ça après on incite les gens un peu à se tourner vers les retraites complémentaires privées, hein, en compensant avec des assurances privées. Mais ça pénalise encore plus les femmes. Pourquoi ? Parce que allonger la durée de carrière quand, comme je l'ai dit, les femmes ont en moyenne des carrières plus courtes, ça veut dire que pour les femmes c'est encore plus difficile d'avoir la durée qu'on exige, hein. Et puis maintenant, là, depuis la retraite de l'an dernier, on en est à 41 ans et demi d'exiger, alors que les moyennes de carrière sont beaucoup plus faibles, donc c'est beaucoup plus difficile pour les femmes d'avoir cette durée. Alors, il y a deux solutions pour elles, hein. Soit elles travaillent encore plus longtemps, et de fait, les femmes, en moyenne, partent à la retraite plus tard que les hommes, mais donc soit elles partent encore plus tard, soit elles partent à l'âge qui est légal maintenant, 62 ans, mais elles ont, comme ils n'ont pas toute la durée exigée, elles ont une décote. La décote, ça veut dire que s'il leur manque un an, il y a un abattement de 5% sur leur pension. Et donc ça va vite, hein. S'il manque 3 ans, ça fait 15% en moins, et donc ça affaiblit encore plus fortement les pensions des femmes. Donc ces mesures d'allonger la durée de cotisation, elles sont pénalisantes pour tout le monde, mais encore plus pour les femmes. Et les femmes se retrouvent donc avec des décotes, elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à partir en retraite avec des décotes.
Et tu disais tout à l'heure aussi que le calcul des pensions de retraite n'était plus le même qu'auparavant aussi.
Alors, sur le calcul aussi, toujours en 93, c'était en 1993, c'était Balladur. Il y a eu l'allongement de la durée de cotisation, puis il y a eu aussi une autre mesure qui était très pénalisante. Avant, on parlait des 10 meilleures années, on est passé aux 25 meilleures années. Ça veut dire qu'auparavant, on calculait le salaire moyen qui servait de base, de référence pour le calcul de la pension, on faisait la moyenne des 10 meilleures années de la carrière. Bon, c'est ce salaire qui on calait la pension là-dessus. Et bien après, on est passé aux 25 meilleures années. On comprend bien que de faire la moyenne sur 10 années ou de prendre les 25 meilleures années, et ben d'entrée de jeu, ça rabaisse très fortement le salaire de référence qui servait à calculer la pension. Et ça, bon, ça a impacté une baisse pour tout le monde, mais là encore, la baisse, elle a été encore plus pénalisante pour les femmes, parce que comme les femmes ont des carrières plus courtes, et ben, quand elles ont des carrières qui sont de 30 ans, bon, si on prend les 25 meilleures années, c'est-à-dire qu'on fait carrément la moyenne de presque toute la carrière. Et là-dedans, on tape dans des années où elles ont été à temps partiel, où elles ont eu des salaires plus bas, des interruptions, etc. On tape dans des années beaucoup plus, enfin, avec des salaires bien moindres, qui font que le salaire moyen est largement abaissé. Donc, le passage des 10 aux 25 meilleures années a été très négatif pour les femmes.
Ok, et je te remercie pour toutes ces précisions. On comprend mieux comment les réformes ont pu impacter au fur et à mesure du temps les pensions de retraite des femmes. S'il y avait des grandes propositions à faire justement pour redresser la barre faire diminuer ces inégalités entre les pensions de retraite des hommes et des femmes, quelles seraient-elles
Ça, ce qu'il faudrait déjà, c'est annuler ces mesures passées, parce que alors qu'on est dans des taux de chômage très importants, que on veut toujours faire travailler, comme on dit, les seniors plus longtemps, alors que les jeunes n'arrivent pas à trouver leur place sur le marché du travail. Donc ça, ce sont des réformes absolument absurdes. C'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Donc c'est déjà annuler ces réformes d'allongement de la durée de cotisation et revenir à une carrière qui correspond mieux avec ce que les gens rencontrent, ça c'est une chose. Mais également, il faut penser que réaliser l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes, déjà c'est quelque chose qui améliorerait fortement. Bon, pour l'instant, comme je l'ai dit, les salaires des femmes, c'est 25% en moyenne moins que celui des hommes. Donc ça veut dire que les cotisations sociales pour la sécurité sociale, mais également pour les retraites, par ce moment, elles sont proportionnelles au salaire. Et ben, s'il y avait l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, il y aurait des rentrées de cotisations sociales qui seraient plus fortes. Donc, des rentrées de cotisations sociales, ça veut dire un financement des retraites beaucoup plus fort. Bon, ça, c'est l'égalité salariale améliore le financement des retraites et donc ensuite aussi le niveau de pension. Si les femmes avaient des salaires plus élevés, eh bien, la moyenne, comme je disais à l'instant, du salaire qui sert à calculer la pension serait plus forte. Voilà, donc c'est un cercle vertueux. Et deuxième grande proposition, c'est aussi sur les taux d'activité des femmes. Il y a encore des femmes qui sont au foyer, non pas parce qu'elles l'ont choisi, mais parce que quand arrive un enfant, eh bien, elles n'ont pas forcément des solutions de crèche ou de mode de garde à coût abordable près de chez elles. Et elles se posent la question, elles s'arrêtent souvent, elles se retirent de l'emploi pour garder l'enfant. Et à ce moment-là, c'est évidemment leur compte retraite qui en subit les conséquences. Donc s'il y avait des politiques publiques qui développent les crèches, etc., de manière à faire que les femmes aient le même taux d'activité que les hommes, eh bien ça, là aussi, un calcul fait que on a calculé que si cette égalité avait lieu, par exemple, en 2012, ça aurait été plus de 9 milliards d'euros de cotisations supplémentaires, hein, puisque les femmes ayant un emploi, elles cotisent plus. Donc 9 milliards d'euros supplémentaires simplement pour les caisses retraites, hein, il y en aurait encore aussi sur la sécurité sociale. Et 9 milliards d'euros, c'est à comparer avec le déficit de ces caisses la même année qui était de 13 milliards. Donc ça comblerait pas tout, mais on voit que l'ordre de grandeur montre que c'est vraiment une piste d'avenir à essayer de faire en sorte que les femmes ne soient plus freinées. C'est pas la question d'obliger les femmes au foyer à travailler, mais en tout cas ne pas les en décourager ou les en empêcher parce qu'elles n'ont pas d'autres solutions. Voilà, donc développer des politiques publiques, tout ça aussi crée un cercle vertueux pour améliorer à la fois le financement des caisses de retraite, mais également le montant de la pension de droit direct des femmes.
Merci beaucoup, Christiane, pour toutes ces précisions.
Bah écoute, bon courage, bonne continuation, j'espère à une prochaine fois.
Au revoir, bonne soirée.
Au revoir.
Voilà, donc c'est assez complet Maya voulait rebondir un petit peu justement au sujet du système économique dans lequel on est.
Oui, et du contexte actuel, parce que justement, sous le prétexte de résoudre la crise économique, on veut remettre en cause les droits sociaux des femmes, voire remettre en question l'accès des femmes à l'emploi. C'est une grosse erreur, parce que d'une manière générale, l'amélioration des conditions de travail pour les femmes bénéficie à tous les travailleurs. Et on est donc dans un système économique qui veut faire porter la responsabilité sur les travailleurs, sur les chômeurs, sur les précaires, individualiser, culpabiliser aussi. Et c'est une méthode pour diviser, pour mieux régner. Voilà, c'est pas une somme de cas individuels, c'est vraiment une orchestration de la précarité, parce que ça permet d'avoir des personnes qui peuvent être soumises. À qui on peut imposer des travails qui sont...
Oui, des conditions de travail difficiles, des salaires bas.
Voilà, et une activité qui n'est pas valorisante, qui n'est pas choisie aussi. Et voilà, donc ça, c'est un des effets du système capitaliste. Et le système capitaliste s'est développé aussi en prenant pour base les dominations existantes, et notamment la domination machiste, etc. quoi. Donc c'est remettre en cause la responsabilité aussi de la précarité, qui ne doit pas reposer sur les personnes qui se sentent mal, qui se sentent coupables, qui n'osent pas en parler. Que ce soit culpabiliser les chômeurs parce qu'ils sont au chômage alors qu'ils sont déjà dans une situation de précarité. Ce qui est important, bah, c'est de développer la parole et la solidarité pour toutes les personnes qui sont dans cette situation, qui se rendent compte qu'ils ne sont pas seules. Et c'est ça aussi l'action de la crise.
Tout à fait.
Clairement, hein, c'est pour ça, hein, peut-être rappeler les dates de permanence, enfin les jours de permanence, c'est les jeudis de 15h à 18h au CCN 69 rue Mont-Désert. Le but, c'est justement agir plutôt que subir, c'est le slogan
c'est
de la
devise.
Crise.
Et bouge ton cul.
Alors... On voulait évoquer d'autres situations de précarité dans lesquelles peuvent être les femmes. On voulait évoquer, entre autres, la prostitution, les situations de prostitution. Alors, je rappelle, j'informe que le collectif Debout n'a pas une position qui serait légaliste ou abolitionniste. En fait, il y a plein de positions et de points de vue différents au sein du collectif. Notre position, et Maya va plus en parler, c'est plus une position d'accès aux droits sociaux.
Oui, alors déjà revenons sur la situation. On a eu la chance d'avoir une soirée justement avec l'association Antigone qui s'occupe des travailleuses du sexe à Nancy, et justement de leur permettre de compenser l'absence d'accès aux soins, etc. Ça a été justement assez enrichissant pour se rendre compte de la situation réelle de ces femmes et de ces prostituées à Nancy et ailleurs. C'est vraiment une population qui est stigmatisée. C'est vu comme un métier dégradant, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la situation des personnes, des femmes qui sont là. Les femmes se prostituent la majorité du temps, ben c'est pour subsister. Et il y a le système prostituteur qui va se servir de cette inégalité économique, de l'inégalité sexuelle, souvent aussi faire venir des femmes de très loin qui vont pas parler français, qui vont avoir encore plus de mal à accéder aux droits, à accéder aux soins. Donc il y a vraiment une absence totale de prise en charge et de reconnaissance. Pour les travailleuses du sexe. Et la prostitution, majoritairement, actuellement, est une contrainte forte. Les prostituées voient rarement l'argent, en fait. C'est pas forcément le cas, mais souvent, dans la très très grosse majorité des cas, elles vont être contraintes par la famille, par le proxénète, à se prostituer et ne vont pas voir l'argent. Et donc, elles se retrouvent dans un cercle vicieux qui va les conduire à être isolés de plus en plus. Et c'est ça aussi les mécanismes de précarité, c'est isoler les gens et les accumuler, que ce soit de plus en plus dur de sortir de cet entonnoir.
Et surtout qu'elles n'ont aucun droit social ni de droits médicaux, donc leur situation est bien plus que précaire. Voilà, moi c'est...
Oui, toujours dans agir plutôt que subir. C'est vrai que la priorité au niveau action pour les personnes en situation de prostitution, c'est bien l'accès aux droits sociaux, à un revenu, par exemple, comme le RSA. C'est déjà quelque chose qui peut permettre de sortir la tête de l'eau et sortir d'une situation éventuellement. Et puis l'accès à la santé, hein, avec rien que la sécurité sociale, parce que si on n'a pas de statut, on n'a pas de sécurité sociale. Et éventuellement à une complémentaire comme la CMU pour les personnes en situation de difficulté économique. Donc c'est vraiment le message qu'on voulait porter, et Antigone fait un travail dans ce sens-là à Nancy, mais là aussi on n'a pas, il faut toujours aller plus loin pour que les personnes puissent sortir des situations de précarité dans lesquelles elles sont. Alors on avait fait un choix musical aussi pour la thématique de la prostitution. Alors, c'est une chanson de Georges Brassens, donc on pourrait rentrer dans le débat, Georges Brassens était-il misogyne ou non ? En tout cas, cette chanson-là n'est pas misogyne, et c'est une chanson qui parle de la précarité des femmes en situation de prostitution. La complainte des filles de joie de Georges Brassens.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix, mais encore, des œils de perdrix, mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de grolles, parole, parole, c'est fou ce qu'elles usent de grolles. Y a des clients, y a des salauds, y a des clients, y a des salauds, qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau, faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole, faut pourtant qu'elle les cajole. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel, les sous croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, les sous croyez pas qu'elle les vole. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Bien toute la vie elle fasse l'amour, bien toute la vie elle fasse l'amour, qu'elle se marie 20 fois par jour, qu'elle se marie 20 fois par jour, la noce est jamais pour leur fiole, parole, parole, la noce est jamais pour leur fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles.
Donc, encore une fois, on n'a pas eu le temps d'évoquer tout ce qu'on aurait pu et voulu évoquer lors de cette émission. Comme d'habitude, il y avait, je pense, encore beaucoup de choses à dire. On voulait finir quand même un petit peu sur peut-être des alternatives. Alors, agir plutôt que subir, mais aussi des propositions. Alors, moi, je voulais parler de l'individu... Oh pardon, individualisation du revenu. À l'heure actuelle, les revenus ne sont pas individualisés. Vous avez un foyer CAF. Quand vous vivez avec quelqu'un et que c'est pas en colocation, eh ben tous vos droits aux revenus RSA, ASS, allocation adulte handicapé dépendent des revenus de la personne avec qui vous vivez. Ça met les personnes et principalement les femmes dans des situations de dépendance financière et c'est pas acceptable. Donc première proposition, oui à l'individualisation des revenus. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, oui au développement des modes de garde pour que les enfants soient gardés, que les femmes puissent travailler, parce qu'encore aujourd'hui, c'est aux femmes qu'on demande de rester à la maison et de garder les enfants. Donc aussi, oui à l'ouverture du congé parental aux hommes. Donc voilà, c'était quelques pistes. Est-ce que vous aviez autour de la table quelques petites choses comme ça à ajouter ?
Oui, au revenu inconditionnel, donc individualisé, chaque personne ait le droit de vivre, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, quel que soit son genre. Ceci permettrait de sortir, il me semble, de la domination capitaliste qui pousse les gens dans ces situations de précarité.
Alors, tout à fait. Vas-y.
Pardon. La crise invitera debout à la prochaine émission Parole de crise en avril, je crois que c'est le 25. Voilà, je voulais ajouter ça.
Et puis moi, je vous invite à consulter le site internet Facebook de la crise que vous pouvez retrouver en tapant « La crise, c'est à Nancy », où on vous donnera de plus amples informations sur les actions à venir, ainsi que ce qu'on fait, les permanences, les zones de gratuité, les soupes populaires, etc. Voilà.
Super. Donc, c'est quoi la crise ? C'est à Nancy. On se tape ça voilà. Dans le truc de recherche de Facebook et on tombe dessus.
Ouais.
Super.
Avec des points entre C.R.I, etc.
Et voilà. Il n'est pas question d'avoir le cafard.
Oui, oui, oui. Si vous voyez des cafards, c'est la bonne page. Hein.
Et alors, du côté de Debout, tiens, d'ailleurs, on a aussi un Facebook. Vous tapez Collectif Debout dans le truc de recherche et vous tombez sur notre Facebook, par ailleurs. Alors, nos prochaines actions. 12 et 13 avril à Nancy, il y a une formation à l'autodéfense pour femmes qui se fait, après vous pouvez nous contacter pour en savoir plus. Notre contact mail, contact@collectif-debout.org. Il y a notre site internet aussi pour avoir toute notre actualité et nous contacter, c'est www.collectif-debout.org. Et aussi, par courrier, si vous voulez, au CCAN, 69 rue Mont-Désert à Nancy.
Et donc, dans le cadre du stage d'autodéfense, il y a une soirée qu'on organise, donc toujours au CCAN, 69 rue de Mont-Désert. C'est une soirée où on invite les femmes à venir pour discuter des situations de violence qu'elles peuvent vivre au quotidien. Donc, la violence qui est partout, dans la rue, au travail, au foyer, etc. Donc, ça, c'est le...
Le 12 avril à 19h30, donc au CCAN. C'est ouvert à toutes les femmes. C'est une soirée qui sera placée quand même sous le signe de la convivialité. C'est au milieu du stage d'autodéfense. Il y a aussi besoin de se détendre. Mais l'idée, c'est de pouvoir échanger au sujet de ces violences et aussi réfléchir à comment réagir. Agir, comment agir, hein, c'est toujours le mot d'ordre, agir.
Plutôt que
subir. Et puis, on pourra boire un verre, voir des petits courts-métrages qui évoquent ces violences, etc. Et donc, à très bientôt. Hein, il est le moment de vous dire au revoir. Et donc, à bientôt sur RCN 90.7. Au revoir.
Au revoir,
au revoir.
Au monde.
Debout. Debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves, déprisons nos entraves. Debout, debout. Reconnaissons-nous, les femmes. Ensemble révoltons-nous, levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves.